Notre deuxième leçon. On a vu la semaine passée l'introduction à ce qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. On n'a pas parlé spécifiquement sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut, mais on a surtout fait une introduction à ce qui concerne le Saint-Esprit dans les Écritures. C'est ça? Qu'est-ce qu'on avait dit? Vous vous rappelez un peu pour ceux qui étaient là? On a parlé de la personne du Saint-Esprit. C'est une personne de là, de la Trinité. Okay. On a un seul Dieu, mais en trois personnes distinctes. Okay. Donc, le Saint-Esprit, on a vu que c'est une personne, donc il peut parler. On le voit pas dans les Écritures. Il peut... quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit quand vous voyez dans les Écritures? Parce que c'est une personne. C'est Dieu aussi, mais il y a un rôle différent seulement. Mais c'est Dieu lui-même, donc il a tous les attributs même, on a parlé. Il est omniscient, il est omnipotent, donc il est tout-puissant. C'est ce qu'on a étudié dans les doctrines même, essentielles en ce qui concerne le Saint-Esprit, la Trinité. Donc on a fait juste une introduction par rapport à la personne du Saint-Esprit. Nous allons maintenant plonger vraiment dans ce qui concerne le cours tel quel, là. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut, c'est-à-dire l'histoire du salut, on parlait l'autre jour, c'était quoi? L'histoire de la rédemption, l'histoire, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit dans les Écritures. OK, puis on va survoler les Écritures depuis l'Ancien Testament, depuis le début jusqu'à l'Apocalypse. Puis on va voir l'œuvre du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans l'histoire du salut. Donc, pensez-vous que le Saint-Esprit est déjà en œuvre dans l'Ancien Testament? Oui, est à l'œuvre aussi, mais de façon un peu plus... quoi? Selon, vous avez tous lu la Bible, c'est ça? Et c'est sa fonction, son œuvre un peu plus discrète que les autres personnes de la Trinité, c'est ça? Dans l'Ancien Testament, il reste un peu en arrière-plan. Il est souvent mentionné, mais de manière moins... direct que dans le Nouveau Testament. Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi le Saint-Esprit, et ça nous arrive maintenant, nous que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, ok? Nous sommes placés dans la Nouvelle Alliance, on a toute la Bible, on a toute la révélation écrite de Dieu, donc on peut voir l'ensemble de l'histoire. Donc pourquoi vous pensez qu'on donne... beaucoup plus d'accent au niveau du Saint-Esprit, juste dans le Nouveau Testament. Mais la Bible nous dit qu'il était aussi dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, okay, il y a des phases, okay, et même concernant le ministère du Saint-Esprit. Okay, il y a la phase avant la glorification de Jésus, c'est-à-dire... toute la période de l'Ancien Testament, la première partie du Nouveau, et après même la glorification de Jésus, depuis la Passion et la Résurrection, l'Esprit agit dans une dimension nouvelle. Okay? Mais un peu voir ça dans les Écritures. Qui pourrait lire Jean 7, 37 à 39? Quelqu'un qui pourrait lire Jean 7 à 37 à 39. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage, si vous l'avez entendu? L'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc, dans le plan de Dieu, il y a une place où l'Esprit commence, on dirait, son œuvre plus... et puis, on le voit là. Si on voit les Actes des apôtres, vous allez voir, il y en a qui ont voulu donner le nom... au lieu des actes, les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Donc, on voit vraiment l'Esprit qui est manifesté. Donc, le temps, c'était pas encore là dans le plan de Dieu pour le Saint-Esprit. Ça veut pas dire qu'il était pas dans toute l'histoire du salut, si on peut dire. Oui, il était là. Mais il y a eu un temps dans le plan de Dieu où l'Esprit s'est manifesté. Puis, on le voit maintenant dans la Nouvelle Alliance. Donc, trois étapes. La première époque, dans l'Ancien Testament, mais surtout avant, on voit dans l'Ancien Testament qui est vraiment de la Trinité, qui on voit le plus? Le Père ou Dieu lui-même, c'est ça? Dans la période, quand Jésus est arrivé, on voit le Fils de Dieu manifesté. Et après que Jésus a été glorifié, on voit vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas négliger ce que l'Ancien Testament dit en ce qui concerne le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que je vous rappelle maintenant le but de ce cours-là. Okay? Nous allons découvrir l'œuvre du Saint-Esprit à travers toute l'Écriture, okay? De la Genèse à l'Apocalypse. Nous allons voir comment l'Esprit agit aussi dans l'Ancienne comme dans la Nouvelle, en suivant le dessein, le plan révélé dans les Écritures. Ça, c'est le but du cours, et ce parcours va nous aider à mieux comprendre l'unité de la Bible et la place centrale de l'Esprit dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu pour nous. Donc, le plan, allons voir d'abord comment l'Esprit se manifeste et agit dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on va commencer aujourd'hui. Et nous allons découvrir ensuite de quelle manière dans le Nouveau Testament est révélée pleinement l'œuvre du Saint-Esprit. Puis, comme troisième grand point, on a 12 cours, hein, 12 leçons, pardon. Et nous prendrons un recul, tout ce qu'on va voir ensemble, et on va pouvoir tirer un résumé, une synthèse biblique et théologique sur la place de l'Esprit dans le plan de Dieu encore. Vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas le choix, hein? OK, donc, mais je vous invite à participer et à ne soyez pas gênés pour si on a des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais on va surtout, j'ai mentionné ça la semaine passée, il y a une œuvre du Saint-Esprit qu'on le voit très bien, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Quelle œuvre, quelle action on voit vraiment dans les deux si je peux dire, dans les deux testaments, dans les deux alliances. Oui, c'est ça l'inspiration. Vraiment, il a inspiré les auteurs de la Bible à pouvoir écrire. Mais maintenant, on va voir l'inspiration dans l'Ancien Testament. Okay? On va le voir quand on va étudier l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau. On va quand même toucher quelques aspects de cette œuvre-là, parce que le Nouveau Testament, c'est aussi la parole de Dieu qui a été inspirée par le Saint-Esprit aussi. Donc, le Saint-Esprit est la source de toute inspiration biblique. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous savez, Ézéchiel a écrit aussi, il dit, Ézéchiel 2:2, il dit, « Alors, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. » Qui lui parlait? Le Saint-Esprit. Il lui parlait pour pouvoir donner la révélation au peuple et exprimer ce qu'il fallait qu'il dise peuple de Dieu, dans Ézéchiel 2:2. Mais son ministère de supervision a assuré l'infaillibilité de la communication. Ça, c'est le Saint-Esprit aussi. Regardez qu'est-ce que dit Ésaïe 59, là. « Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point. » C'est ce qu'il dit à Ésaïe. Qui dit ça? Dieu. Mais en parlant de qui? Son esprit, il dit « mon esprit qui repose sur... » Ça, c'est Ésaïe 59, 21. OK? Et, « mon esprit repose sur toi. » Peut-être je pourrais mettre à côté les... Oui, je vais... Vous savez que tous les PowerPoints sont sur le site web. Donc, on va le... Si vous manquez un cours un dimanche, vous pouvez aller voir. OK? Mais même, vous voulez entendre même... Qu'on dit là. OK? Et ça pour plusieurs cours, même pour le cours en bas sur Daniel, il est enregistré aussi. Donc vous pouvez aussi faire deux cours en même temps. Et de nombreuses occasions dans l'Ancien Testament montrent cette action-là du ministère du Saint-Esprit pour la communication infaillible, la supervision même du Saint-Esprit. Michée 3:8. Qu'est-ce qu'on lit dans Michée 3:8? Mais moi, je suis rempli de force, l'esprit de l'Éternel, de justice et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime à Israël, son péché. Vous voyez l'action de pouvoir annoncer le message de Dieu. Ok, ça c'est un aspect de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Ok, ça on va toucher cet aspect-là aussi. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Michel? Mais moi, je suis rempli de la force de l'Esprit de l'Éternel, du souffle de l'Éternel. Ça, c'est concernant l'inspiration de l'ancien, du livre, des livres de l'Ancien Testament. Certains auteurs savaient que le Saint-Esprit les dirigeait pendant l'Écriture. Par exemple, David. Oh, il est écrit là. Je pense que, par exemple, David, dans 2 Samuel, là, il est affiché là. 2 Samuel 23, 2 à 3. Nous lisons là, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de l'Éternel a parlé par... C'est David qui est en train de parler, hein? L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi. Et sa parole est sur ma langue. OK? Le Dieu d'Israël a parlé. Et il dit, c'est moi qui parle, mais après il dit, c'est que le Dieu d'Israël a parlé par lui. Le rocher d'Israël m'a dit. Et plusieurs fois, on voit ici que c'est Dieu qui parle, au moins 4 fois là. Il m'a dit, c'est lui qui domine sur les humains et juste, celui qui domine dans la crainte. Qui domine dans la crainte de Dieu. Donc, certains auteurs savaient que le Saint-Esprit les dirigeait. Avez-vous d'autres exemples comme quoi il y avait des auteurs qui savaient un peu ce que Dieu dictait ou leur disait? Vous vous rappelez un peu dans l'Ancien Testament? Je crois qu'il y a Jérémie, hein? OK, Jérémie aussi, quand il dit qu'il fallait écrire tout ce que le Saint-Esprit disait. Même Moïse, je crois aussi. Il y en a d'autres. Mais Jésus confirme ce que David avait dit. OK? Donc, on voit dans Marc 12, 36. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus prit la parole et se mit à enseigner dans le temple. Comment les scribes pouvaient-ils dire que le Christ est le fils de David? Il dit... David lui-même, animé par... Qui parle? C'est Jésus qui est en train de parler. Hein? Il dit, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit. Vous voyez? Jésus même confirme que David a parlé par le Saint-Esprit. Mais comme je dis tantôt, il y en a d'autres exemples. Okay? Dans Exode, on voit l'Éternel dit à Moïse... Écris cela dans le livre pour le souvenir, pour que ce souvenir se conserve, dans Exode 17, 14. Dans Deutéronome 31, 9, il dit, Moïse écrivit cette loi et l'a remis au sacrificateur. Vous voyez, c'est directement que de la part de Dieu que Moïse avait écrit. Dans Josué 24, 26, il dit, Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. En Chronique, on a plusieurs exemples. Les actes du roi David sont écrits par Samuel, nous dit en Chronique. Les actes du roi David sont écrits par Samuel, dans 1 Chronique 29, 29. Dans Jérémie, je disais tantôt, ainsi parle l'Éternel, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Habakkuk 2, 2. Dieu lui dit, écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on lise couramment. Wow! Qu'est-ce que ça vous fait de savoir tout ça? Qu'est-ce que ça nous fait de connaître ça? Oui, Pierre. On est rassuré, hein? Ce n'est pas la parole des hommes. Même si Dieu a choisi... David a choisi Moïse, des hommes qui, dans plusieurs cas, étaient des hommes pieux, ok, et craignant Dieu. Même si c'est des hommes comme ça, ce n'est pas leur parole. C'est vraiment la parole de Dieu qui a été transmise pour qu'ils puissent écrire, pour qu'on puisse les avoir aujourd'hui, ces écrits-là. Okay? C'est rassurant ou non? C'est un peu le but de cette étude. Hein? C'est pas juste nous remplir des connaissances intellectuelles en ce qui concerne la théologie. C'est vrai, c'est important connaître les doctrines, mais il faut en tirer des enseignements spirituel. On parle de l'esprit, hein? Donc les enseignements doivent être spirituels. Les enseignements que nous recevons doivent être spirituels. Ça doit nous aider pour notre vie, connaître davantage Dieu. Donc, c'est ça. Donc, ça nous rassure. Le Saint-Esprit a participé dans la création. OK? Ça, c'est, on a fini en ce qui concerne l'inspiration. Maintenant, on va voir vraiment l'œuvre du Saint-Esprit depuis la création. OK? Depuis le début. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu se présente à nous comme le grand ouvrier qui opère par la parole et l'Esprit. Qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 1, 2? On l'a vu, on a mentionné la semaine passée. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu, quoi? Planait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux? Promener, il n'y avait pas un lieu où aller le Saint-Esprit. C'est quand même curieux de voir que le Saint-Esprit était là, se promener. Si on voit toute l'histoire, c'est bon de voir comment le plan de Dieu, il y a quand même une progression dans le plan de Dieu. Ok, vous vous rappelez que le Saint-Esprit, okay, quand on parle de la nuée, okay, on sait que le Saint-Esprit vient et avec le peuple de Dieu. Vous vous rappelez, quand ils sont sortis de l'Égypte, la nuée, ça représente la présence de Dieu, l'Esprit. Okay? Donc, on voit qu'il accompagnait le peuple. Mais après, qu'est-ce qu'on a construit au désert? Le tabernacle, pour que Dieu puisse habiter là. Le Saint-Esprit a trouvé, comme on dirait, une place où habiter parmi son peuple. Après, c'est le temple, vous vous rappelez? Le temple, là, le lieu très saint, où là, Dieu était là. Son esprit était là. Malheureusement, à cause de la dureté du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël, qu'est-ce qui est arrivé? Vous vous rappelez, avant l'exil, le temple a été détruit et la présence de Dieu s'est retirée du temple. C'était une époque triste pour le peuple de Dieu. Vous vous rappelez au début, au retour de l'exil, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont reconstruit le temple, mais on ne parle pas que Dieu vient habiter encore parmi eux. On n'en dit pas. Le temple est là, encore là, mais ce n'est pas comme avant. OK? Qui va vraiment, comment je peux dire ça, là? Et remplir le temple de sa présence. On va attendre jusqu'où, là, le peuple d'Israël? Jusqu'à la venue de Jésus. Il dit, et la parole s'est faite chair, et il a habité, le mot c'est comme tabernacle, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, grâce comme celui du Fils unique venu du Père. C'est Jésus qui est le. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit aux gens, là, aux sacrificateurs? Détruisez ce temple et je le en trois jours. Mais Jean, il dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il parle de quoi? Du temple? Il parlait de quoi? Il parlait de son corps qui était le temple, le vrai temple, en fait. Donc, on voit le Saint-Esprit est là, au-dessus, plané, il dit. Mais il était là. On voit aussi quand il a créé l'homme. José. Le voile a été déchiré. Oui, je crois que c'était comme ponctuel. Pas en permanence, je crois. Quand Jérémie parle que la présence de Dieu s'est retirée du temple, vous vous rappelez? OK? Donc je pense que oui, il y avait des sacrifices. Mais peut-être c'était comme ponctuel la présence de Dieu parmi le peuple. Ce n'est pas dit comme quoi la présence de Dieu est retournée au temple où là il célébrait les sacrifices et tout. Donc C'est quand Jean il commence à parler de Jésus comme quoi il est le vrai temple. Donc c'est là qu'on voit vraiment tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament annonçant. Là. On va le voir aussi que le Saint-Esprit est annoncé. OK? Puis le Saint-Esprit, il vient habiter, il vient de façon symbolique. La colombe tombe sur Jésus-Christ qui commence son ministère. Il vient habiter parmi nous. C'est le Emmanuel. Mais ça change tout dans la Nouvelle Alliance. Hein. On n'a plus de temple. On n'a plus de sacrifices. Mais c'est vrai que c'est sûr qu'il y avait encore des sacrifices dans le deuxième temple, si on peut dire, dans le temps de Néhémie et Esdras. Donc l'Éternel, Dieu forma l'homme et la poussière du sol, il dit, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Donc on le voit aussi dans la création. Dans sa création, il a créé l'homme et la femme. Mais Dieu n'a pas livré sa création elle-même. Le Saint-Esprit soutient la vie et ses créatures aussi. Dans le psaume 104:30, il dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face du sol. Donc Dieu maintient sa création. Et il parle vraiment du souffle. Quand on parle du souffle, le même mot est écrit pour défini par l'Esprit aussi, l'Esprit de Dieu même. Et si on voit le souffle de Dieu, c'est vraiment l'Esprit. Et c'est Dieu lui-même qui soutient sa création. Dans l'Ancien Testament, seulement quelques individus ont bénéficié de l'action du Saint-Esprit. Et toujours dans le cadre d'une mission particulière. Vous avez lu l'Ancien Testament et vous avez vu l'action du Saint-Esprit sur quelques personnages, c'est vrai? Pas surtout le peuple de Dieu. Oui, il y a une façon, des fois la Bible parle d'une façon, on va le voir aussi tantôt, globale, mais il parle de quelques personnages, quelques hommes, quelques ouvriers, quelques gens que l'Esprit a touchés ponctuellement par différentes missions. Donc on voit les ouvriers du temple, du tabernacle, vous vous rappelez? Dans le désert, les ouvriers chargés de construire la tente de la rencontre. Les responsables appelés à diriger le peuple, qui? Les juges, les rois aussi, et les prophètes. Ça, je crois qu'une grande partie de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est passé par les prophètes, hein, qui ont parlé de la part de Dieu. On peut voir ces trois catégories. Je ne sais pas si vous voyez d'autres catégories. Si on parle des catégories, mais on ne parle pas des manifestations, hein, des choses comment le Saint-Esprit s'est manifesté. Mais on parle peut-être de trois catégories, OK, dans l'Ancien Testament, comment l'œuvre du Saint-Esprit, on le voit dans les Écritures. Vous vous rappelez? Moi, je ne me rappelle pas les noms, mais Bezaleel et Oliab. C'est qui ces deux personnages-là? Dans Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Vois, j'ai appelé par son nom Bezaleel. Je le remplis de... » Ça, c'est clair, hein? « Je le remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages. » J'aime le mot « sagesse », hein? Parce qu'il aurait juste pu dire des manuels, hein? Pratiques. Non, mais Dieu utilisait cet homme-là qui était plein de sagesse aussi. Sagesse qui venait de Dieu, de l'Esprit de Dieu. D'ouvrage pour concevoir les plans, pour travailler l'or, l'argent, le bronze, pour graver les pierres, et enchâsser pour tailler le bois, et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oliab. Donc, on comprend que c'est Oliab aussi qui a été rempli, qui a été touché par le Saint-Esprit pour pouvoir faire ces ouvrages. Plus tard, dans le chapitre 36, on voit que Bezaleel et son ami Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir exécuter tout ouvrage pour le culte du lieu saint se mirent au travail selon ce que l'Éternel avait ordonné. Donc, c'est pas juste ces deux-là. Peut-être ces deux-là, ils dirigeaient tout le travail, mais il y en avait d'autres aussi. Il y avait plusieurs là, qui étaient qui avaient été touchés par le Saint-Esprit et pour qu'ils puissent faire ce travail de la construction du tabernacle. Maintenant, à savoir si ces gens-là, je ne sais pas moi, je me pose la question aussi, est-ce que ces gens-là, qu'est-ce que vous en pensez là? Mettons, Bezaleel, ce monsieur-là, il connaissait déjà tout ça? Il savait déjà travailler l'or et tout ça? Ou c'est le Saint-Esprit en même temps qui l'a rendu possible? Qu'il soit, ok, parce qu'ils sont en train de construire le tabernacle. Et José, tantôt mentionné, c'est vrai, le lieu très saint, c'est ça? Dans même le tabernacle, mais après, on voit dans le temple aussi. Puis, Dieu s'est servi de ces hommes-là. Écoutez, là, je pense, comment ils ont fait, ils ont construit le lieu très saint, OK? Mais c'est des hommes qui ont construit ça. Mais personne ne pouvait y entrer, vous vous rappelez? Après, à la fin de la construction. Mais avant, il y a des hommes qui ont touché à ça. Mais Dieu, hein, avec son esprit, a dirigé tous ces hommes-là. Sagesse, avec la sagesse qui vient de Dieu, pas des hommes. La sagesse qui vient de Dieu. Utiliser vraiment des hommes touchés par le Saint-Esprit pour faire cela. Oui, il y a des hommes qui ont des talents, c'est vrai. Manuel même. Mais moi, je vois aussi, peut-être, comme dit Pierre aussi, peut-être cette personne-là, il y avait déjà ce talent. OK? Mais avec la sagesse du Saint-Esprit, ça fait toute la différence. C'est ça? Ça fait toute la différence. On a tous des personnalités différentes ici, hein? OK? Puis qu'on se démarque, hein, pour des choses de, même de caractère, là. OK? Mais Dieu, quand il nous appelle, utilise ces talents que nous avons. Est-ce que vous pensez aussi qu'il peut transformer quelqu'un puis peut le rendre aussi, je sais pas moi, différent pour le travail de Dieu. Pensez-vous ça aussi? Je pense que oui aussi. Dieu est un Dieu puissant. Hein? Il peut faire ça aussi. Bon, il y a aussi des responsables pour diriger le peuple. OK, on a parlé des gens, les ouvriers du tabernacle maintenant, ceux qui dirigent le peuple. L'Esprit de Dieu rendait Moïse capable de diriger Israël. Là, c'est sous-entendu que mais dans d'autres passages de la Bible, on voit que vraiment Moïse avait le Saint-Esprit en lui. Ok. Et donc, quand la charge était trop lourde, il dit, Dieu partagea l'Esprit avec 70 anciens. Vous vous rappelez, je pense, de ce passage-là. Il y a 70 anciens qui ont venu aider Moïse, puis ont été aussi remplis du Saint-Esprit. Ésaïe rappelle que l'Esprit Saint était en lui, c'est-à-dire en Moïse, pour le guider, pour guider le peuple, accomplir des miracles, même comme l'ouverture de la mer, vous vous rappelez? Nombre 11, 17. Je descendrai et je te parlerai, je prendrai l'esprit qui est sur toi. C'est Dieu qui parle à Moïse. Okay? Donc il y avait l'esprit de Dieu. L'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux pour qu'ils portent à toi la charge du peuple, pour que tu aides avec la charge du peuple, et que tu ne les portes pas toi seul. Vous voyez? L'Éternel descendit dans la nuée, et parla. Il prit de l'Esprit qui était sur lui, et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. Vous voyez le changement, là? Il dit qu'il a pris l'Esprit qui était en Moïse. C'était qui? Quel esprit était en Moïse? C'était l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il a partagé ça? C'est dur à comprendre. Il a partagé l'Esprit en part égale pour tous. Bon, c'est juste pour dire qu'il a pris le même esprit. L'Esprit de Dieu a touché aussi ces gens-là pour aider Moïse dans ce qu'il faisait. Ésaïe 63, qu'on met ici en bas aussi, 11 à 14. Globalement, il dit, Ésaïe dit, où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? L'Esprit de l'Éternel les amenait au repos. Il parle vraiment du peuple, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'ensemble du peuple. Mais c'est Moïse qui dirigeait le peuple d'Israël. Donc, on voit un exemple des gens qui sont appelés à diriger le peuple de Dieu et le Saint-Esprit est venu sur eux. Mais je crois qu'il faut faire quand même une différence pas pour l'exalter, mais Moïse était différent. Hein. Et dans toutes les Écritures, là, Moïse, il parlait comme face à face avec Dieu, comme quelqu'un parle avec un ami, non? C'est particulier dans le cas de Moïse. Les autres, Moïse est aussi considéré comme un prophète. Mais les autres, ce n'était pas la même chose. Il a parlé par des visions, par des songes, mais pas de la même façon qu'avec Moïse. C'est particulier, là. C'est pour ça que, bon, en tout cas, on va voir ça après, là. Je vous donnerai un prophète comme Moïse. Vous allez l'écouter, dit dans Deutéronome. En parlant de qui? Un autre prophète comme lui. Qui? De Jésus. À la fin de la mission de Moïse, sa mission, Moïse imposa la main sur qui? Sur Josué aussi. En qui était l'Esprit lui transmettant l'autorité, afin que tout Israël lui obéisse aussi. Vous vous rappelez? Moïse, il finit son ministère, puis il passe le bâton à qui? À Josué. Josué, fils de Noun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Et les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. À l'époque des juges, là on parle à l'époque des juges maintenant. On passe à l'époque des juges. L'Esprit de l'Éternel saisit qui? Othniel, on le voit clairement. Gédéon, Jephté. Rappelez-vous de ces histoires, on ne va pas passer au travers de chaque histoire, là, comment l'Esprit s'est manifesté sur ces hommes-là, pour conduire Israël et remporter la victoire sur ses ennemis. On voit tous ces passages-là qui nous parlent de ces exploits-là. L'Esprit leur a donné les stratégies, le courage, le charisme nécessaires pour mener la guerre et rallier le peuple au combat. On voit dans ces passages des expressions comme l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, cette personne-là. Et on peut nommer ce que Othniel a fait, ou Gédéon a fait. Samson aussi reçoit aussi l'Esprit, force surnaturelle, vous voyez, et pour ses exploits dans le juge. On voit tous ces passages-là qu'on peut lire, que Samson... Il dit, il a le Saint-Esprit pour exécuter ces exploits-là. Mais malheureusement, qu'est-ce qui arrive avec Samson? Le Saint-Esprit se retire de lui. Mais il revient sur lui à la fin pour le dernier exploit. C'est particulier. Vous voyez que le Saint-Esprit, il va sur des gens spécifiques. Il repose sur des gens spécifiques, mais des fois, il est enlevé. Ça, on le voit dans l'Ancien Testament. Par rapport au Nouveau Testament, c'est différent, là. Mais on va le voir plus tard. Le Saint-Esprit aussi agit sur les rois, sur les deux premiers rois, Saül. L'Esprit fut donné aux premiers rois, Saül et David, pour les équiper à gouverner Israël et conduire ses armées. Ça, on voit dans Samuel, on a étudié le livre de Samuel. Il n'y a pas longtemps, l'Esprit s'est retiré malheureusement aussi de Saül, qui persista dans des graves fautes jusqu'à sa mort, sans montrer de repentance. On n'a pas vu vraiment une repentance dans la vie de remords peut-être, mais pas de repentance sincère. Dans la vie de qui? De Saül. L'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, on voit dans Samuel. Et lorsque Samuel... oignit David comme roi, l'Esprit de l'Éternel descendit sur lui, et probablement de façon permanente. Vous voyez, c'est particulier ce que 1 Samuel mentionne. 1 Samuel 16, 13, il dit, « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. » Particulier dans le... Ça nous dit quand même qu'il restait peut-être pour toute la vie de David. Mais on le voit, hein? On le voit dans l'histoire biblique, là, qu'est-ce qu'il a fait David à part ses exploits, à part de diriger le peuple? Qu'est-ce qu'il a fait David? Il a écrit tellement de psaumes, là. On les a avec nous, là. Inspiré par qui? Par lui-même? Non, inspiré par le Saint-Esprit. Mais David avait des talents. Oui, quel était un de ses talents de David? Il était un musicien hors pair. Hein? Il composait des chants. Wow. Dieu lui avait donné ce caractéristique, mais il a utilisé ça, Dieu, pour sa gloire, avec l'action du Saint-Esprit. Dans les Écritures, bon, dans l'Ancien Testament, pardon, je suis en train de parler de l'Ancien Testament, à part David, on voit aussi que peut-être le Saint-Esprit a été en permanence sur cet homme-là, sur ce personnage. Moïse, peut-être, l'Esprit repose sur Moïse et Dieu en prélève pour le partager aux anciens. L'Esprit de Dieu reposait sur Moïse. Jésus, homme en qui est l'Esprit. Des fois, dans les Écritures, on parle des prophètes comme l'homme de l'Esprit. Dans Daniel, un homme en qui réside l'Esprit de Dieu Saint. Pour parler de l'Esprit, grand esprit, si on peut parler de le roi païen, il parlait comme ça de Daniel. Joseph aussi, un homme en qui est l'Esprit de Dieu. Quelques hommes sont mentionnés par les Écritures. Samuel aussi, probablement. Élie aussi, c'est vrai. Mais on pourrait en mentionner plusieurs, pas juste David. L'esprit sur Joseph et sur Daniel. Joseph, auquel l'esprit conféra l'intelligence et sagesse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Joseph? Le rêve, c'est ça? Oui. Oui. Pharaon leur dit, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui, l'Esprit. C'est qui dit ça, là? C'est un païen, hein? Pharaon, il dit. Hein? En lui, l'Esprit des dieux. Le Pharaon dit à Joseph, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage. Tout un témoignage en ce qui concerne Joseph. Hein? Et Daniel aussi. Daniel aussi, on voit dans Daniel 6,4, Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Et en fait, il a fait. On peut ajouter aussi Salomon dans cette liste. Même si la Bible ne dit pas explicitement qu'il a reçu vraiment l'esprit, mais on peut citer Salomon. Qu'est-ce qu'a fait Salomon? De toute façon, il a écrit quoi? Les proverbes. Et il ne pouvait pas écrire les proverbes sans avoir l'Esprit de Dieu en lui. Dieu lui a donné une sagesse extraordinaire pour gouverner Israël. On le voit, hein, du début, l'exemple de la sagesse de Salomon. Dans les proverbes, l'Esprit se présente comme l'Esprit de la sagesse. Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit, dit Proverbe. Je vous ferai connaître mes paroles. C'est le même Salomon qui a écrit ça. Mais finalement, on va tomber sur... L'Ancien Testament, il parle des prophètes. Le don de l'esprit est inséparable de la fonction prophétique. On ne peut pas séparer ça. Les prophètes, c'est des porte-paroles, hein, de Dieu. Le prophète parle les paroles de Dieu dans sa bouche. Deutéronome 18:18, Jérémie aussi. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, il dit, ce que je mentionnais tantôt. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Là, il parle de qui? Il parle, donnant l'exemple de, comme Moïse. Là. Mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Puis l'Éternel étendit la main, Jérémie dit, et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Donc, le prophète ne peut pas annoncer la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Il y a eu des faux prophètes? Oui, hein, il y a eu des faux prophètes. C'est par l'Esprit que tous les prophètes ont parlé de la part de Dieu. On voit ces versets-là qui en témoignent, Zacharie, Néhémie. Néhémie 9.30 est particulier, on dirait un peu, Néhémie 9.30, on dirait un peu 2 Pierre, hein? 2 Pierre 1.21, quand il dit, tu les as supportés, il parle du peuple de Dieu, Néhémie 9.30, de nombreuses années et tu les as exhortés par ton esprit, dit Néhémie, par l'intermédiaire des prophètes. Il parle vraiment des prophètes qui avaient l'esprit en eux pour exhorter son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit Pierre? 2 Pierre 1:21. Et quand Pierre parle, je le cite ici, on est en train de voir l'Ancien Testament, mais je cite ici Pierre, pourquoi? Parce que Pierre, il parle de qui? Des prophètes de l'Ancienne Alliance, quand il parle dans 2 Pierre 1:21. Ce n'est nulle part une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais ça peut s'appliquer aussi à la Nouvelle Alliance, hein, quand Pierre mentionne ça aussi. Il parle de Paul comme quoi ses écrits, c'est aussi la parole de Dieu. Donc ça, c'est concernant les prophètes. Mais dans l'Ancien Testament aussi, l'Esprit agit au sein du peuple entier d'Israël. Est-ce que l'Esprit de Dieu était sur tout le peuple? Pensez-vous? Dans l'Ancienne Alliance? Non, hein? Mais pourtant, il utilise un peu ce langage-là. OK? Donc, il donne des discernements. Lors de l'Exode, Dieu a donné à Israël son bon esprit pour leur accorder le discernement. Il dit, Néhémie 9, 20, il dit, tu leur as donné ton bon esprit pour... Et il parle du peuple, hein? Pour leur accorder du discernement, tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu leur as fourni de l'eau pour leur soif. De qui il parle, Néhémie, là? D'une personne en particulier ou du peuple? Il parle du peuple, hein? Qu'on croit et tu les as. Tu as donné ton bon esprit. Mais en fait, le don de l'esprit donné à quelques hommes peut être considéré, je crois que dans ce passage, comme s'il le fait à tout le peuple. Parce que tout le peuple en bénéficie de ce ministère. Comme celle, dans ce cas, c'est le ministère de qui? De Moïse. Il est en train de parler du peuple de Dieu. Mais il a donné des discernements, dit la parole, dit l'Ancien Testament. Conduit et repos aussi. L'Esprit du Seigneur a conduit le peuple et l'a amené au repos. Le même esprit. Quand la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a amenés au repos, il parle Isaïe par rapport au peuple. Aussi. C'est le même principe qu'on peut appliquer là. La nuée dans le désert représente l'Esprit des dieux. Néhémie en parle aussi. Dans ta grande compassion, tu ne l'as pas abandonné au désert et la colonne de nuée n'est pas cessé de les guider par leur chemin, ni la colonne de feu. Pendant la nuit, éclairait pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Donc, l'Esprit agit aussi au sein du peuple d'Israël. Il joue un rôle particulier lors du retour de l'exil. Dans Esdras, tout ce dont Dieu réveilla l'Esprit se levèrent pour monter au pays et bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Non seulement quand il a fait sortir du peuple, de l'esclavage, là, okay, mais même quand il les a amenés par le désert, mais aussi quand ils sont de retour de l'exil. Voyez l'œuvre, les actions du Saint-Esprit parmi le peuple, tout ce dont Dieu réveilla, pas tous, là, il ne parle pas de tous, mais tout ce dont Dieu réveilla l'esprit. À qui est un peu mentionné du retour de l'exil? On peut en mentionner quelques-uns, hein? Néhémie, mais Esdras aussi. Qui d'autre? Zorobabel et Josué, le sacrificateur. Ces gens-là qui ont joué un rôle important lors du retour de l'exil. Agé, il écrit dans cette époque-là, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand, c'est Dieu qui parle, quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Là, il part de maintenant. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. C'est ce que Agé écrit quand ils sont retournés. Les personnages de l'Ancien Testament, on a vu tantôt, reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour accomplir des offices particuliers. Est-ce que vous voulez mentionner, est-ce que ça vous vient à l'esprit d'autres, peut-être d'autres façons, comment le Saint-Esprit a agi dans l'Ancien Testament? Oui, mon frère. Par exemple, Balaam, oui. Oui, il a utilisé. Oui. Mais c'était des choses ponctuelles, c'est ça qu'il a utilisé. Oui. Mais des fois, oui, il faut, je ne sais pas, mais des fois, quand vous parlez que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, je crois, un roi païen. Est-ce que vous parlez qu'il s'est parlé, le Saint-Esprit qui est venu sur ce roi païen pour annoncer ça, ou c'est juste mis ses paroles là où il a, il a utilisé cet homme-là pour prendre une décision en faveur du peuple? Moi, je dirais pas, j'irais pas jusqu'au point de dire que le Saint-Esprit est venu sur Cyrus. Il a peut-être ouvert l'esprit qui dit, il a permis que cet homme-là prenne cette décision-là en faveur du peuple. Un autre aspect que peut-être vous voulez mentionner en ce qui concerne le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Nous, comme croyants, nous avons le Saint-Esprit de Dieu, oui. Oui, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est tout un privilège, mes frères et sœurs. Quand j'étais en train d'étudier, mais quand on lit les Écritures, là, on est le temple du Saint-Esprit. OK? Mais ça, on parle de la maison de Dieu, l'Église. Mais Paul, il dit, il va plus loin encore, que nous sommes, notre corps, c'est le temple aussi. Le Saint-Esprit demeure en nous. Toute une responsabilité, tout un privilège que nous avons comme chrétiens, comme enfants de Dieu. Donc, on parle des personnages qui reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour accomplir des choses particulières dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Est-ce qu'on voit la même chose dans la Nouvelle Alliance? Par son esprit, le Seigneur touche des gens pour faire des choses particulières aussi dans son peuple. Pensez-vous qu'on peut l'appliquer aussi maintenant, à l'Église? Ben, je crois que oui. Sauf que le Saint-Esprit est en nous de façon permanente. Donc, l'Esprit de Dieu communique force, on l'a vu, OK, les juges et d'autres que Dieu a utilisés, les rois. Force, courage, veillance ou sagesse, rendant capable d'exercer des tâches variées. Donc, on l'a vu aussi. Et par rapport aux prophètes, les ouvriers du tabernacle aussi. Donc, cette action du Saint-Esprit peut être temporaire ou permanente dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. C'était soit temporaire ou permanente. On l'a vu un peu dans la vie de David, Moïse, qu'on peut voir ça. De façon pratique, comment étudier ce qui concerne le Saint-Esprit, ça peut nous aider de façon pratique. Là, je vous pose la question. Donc, comprendre l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, on est en train de voir ça. Qu'est-ce que ça fait à notre foi? Je pense qu'il renforce notre confiance. Hein. On l'a vu tantôt en ce qui concerne son révélation par les Écritures dans le plan souverain de Dieu. C'est un peu cliché de dire « Dieu a un plan pour votre vie », c'est ça? Mais c'est vrai que Dieu a un plan pour notre vie. OK? Et de comprendre toute l'œuvre de Dieu et en ce qui concerne surtout le Saint-Esprit, cela nous aide dans notre foi. On connaît davantage Dieu. On connaît plus ce que le Saint-Esprit peut faire dans notre vie. Il y a un mot important, on l'a vu hier, je crois, lors de la conférence. Le Saint-Esprit, Dieu nous donne, par son esprit, du discernement. OK? Pour comprendre la parole de Dieu, comprendre aussi sa volonté. Il nous donne du discernement et la puissance. Et cela vient de l'Esprit de Dieu. Vient de Dieu. Parce que nous avons l'Esprit en nous. Quelle autre chose on peut voir, peut-être ce qu'on a vu, des exemples. Ça nous aide de voir dans la parole de Dieu des exemples des hommes et des femmes qui ont vraiment fait des exploits dans le plan de Dieu. Il offre, cela offre des modèles concrets pour vivre selon Dieu aujourd'hui, dans la prière, le service et la sainteté. C'est vrai qu'on a parlé des dirigeants du peuple, c'est sûr. Dieu a dirigé le peuple par Moïse, par Néhémie et dans d'autres époques, là, par Joseph même, il a permis qu'il soit à la tête de l'Égypte pour vraiment venir en aide de sa famille, qui après est devenu le peuple d'Israël, okay, dans le plan de Dieu. Mais on ne peut pas ignorer non plus, mettons, Anne, qui a prié pour qui? Pour son fils. Saül, je crois qu'elle était vraiment une femme craignante qui avait l'esprit en elle. Pour, vous vous rappelez quand elle a chanté, elle a tout exprimé ce chant de reconnaissance en Dieu, parce que Dieu a fait tout cela. Même leur foi démontre qu'il y avait l'Esprit de Dieu en elle, et Dieu dirigeait aussi. Puis on ne saura pas, non plus d'autres choses que Dieu a fait. Et on a sa parole qui est écrite là. Puis quand vous voyez les Écritures, quand vous voyez l'histoire là, des fois on voit des peuples qui sortent ou des gens qui sortent comme en parallèle. Puis ils sont mentionnés même une fois. Ils sont des gens qui sont pieux, qui sont craignants Dieu. Sûrement il y avait l'Esprit. Lorsque Abraham, Melchizedek, vous vous rappelez, ça vous dit quelque chose, Melchizedek? Il sort de nulle part, ce Melchizedek-là. Puis Dieu avait déjà dans son plan touché des gens, même en dehors du peuple d'Israël. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tout, on a ce que Dieu nous a révélé. Mais je pense que ce que Dieu nous a révélé, c'est suffisant. C'est suffisant pour pouvoir le connaître davantage et voir son œuvre. Son œuvre. Et maintenant, l'œuvre en nous par son Saint-Esprit. Bon, ça finit ce deuxième leçon. Donc, Dieu voulant, on va continuer la semaine prochaine. Là, on est, je crois, sur le temps. Et puis, on va peut-être prier pour finir cette étude-là. La semaine prochaine, on va voir une question un peu, comment je peux dire ça là, pas difficile. Difficile des fois, oui, mais voir le Saint-Esprit. Là. Vous rappelez, vous savez que dans la Nouvelle Alliance, il y a la régénération, c'est ça? Par le Saint-Esprit. Quand on vit en lui, on est sauvé, puis on est né à nouveau. Est-ce que c'est arrivé ça dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'on peut parler de ça dans l'Ancien Testament? Et on va le voir la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des exemples? On va voir de quelle façon on peut appliquer ça dans l'Ancien Testament.